Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, que peut le langage? Faut-il rendre la langue plus agile, plus ouverte, plus perméable ou au contraire la protéger des influences du monde extérieur, des autres langues, voire d'une privatisation? Avec le philosophe belge Pascal Chabot, on en parle aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de L'homme qui voulait acheter le langage, un drame philosophique qui paraît aujourd'hui au PUF, où vous anticipez un temps où il nous faudra payer pour parler. Et à vos côtés, l'écrivain Laurent Nunez, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Il nous faudrait des mots nouveaux » aux éditions du cerf, des mots nouveaux pour une vie nouvelle, dont 13 mots entendus ailleurs, intraduisibles en français, et qui viennent pourtant combler des lacunes dans nos vies. On va tenter d'en évoquer quelques-uns ensemble d'ici 13h30. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'abord, messieurs, un drame du langage aujourd'hui? Trop simple, trop univoque, Pascal Chabot.
Je pense qu'il y a toujours eu un drame du langage, c'est-à-dire que cet instrument précieux a toujours été le lieu de lutte de pouvoir, de désir d'expression, également de création de réalités nouvelles. En cela, ce que l'on vit et ce qui a déjà été vécu à d'autres époques. Maintenant, il y a aujourd'hui des influences nouvelles qui sont celles de médias, de nouveaux types de technologies, de plateformes qui elles peuvent contribuer à normaliser le langage, à créer peut-être une langue plus unique, plus mondiale, et en cela formatant les cultures, elles sont un véritable péril pour certains types de langues qu'il est du devoir, que ce soit de la philosophie ou de la littérature, de toutes les sciences humaines, de faire exister mieux.
Et en même temps, le langage a toujours été aussi le foyer de la rébellion. Vous avez écrit, Pascal Chabot, « Exister, résister, ce qui dépend de nous ». On pourrait dire « Exister, résister, ce qui dépend aussi du langage ».
Oui, et de la capacité d'avoir l'audace de parfois parler, de parfois l'ouvrir. C'est vrai, quand on voit le monde des entreprises, par exemple, de certaines organisations, il y a celles et ceux qui statutairement ou audacieusement prennent la parole, et puis les autres qui n'osent pas s'exprimer. C'est sûr que les rapports de langage sont aussi des rapports de pouvoir, et en cela, la possibilité de parler est souvent un acte de résistance. Il y a dans la parole quelque chose de déjà politique. C'est Hannah Arendt qui le disait, et je crois que cette dimension est absolument essentielle. Il y a, par le langage et par la capacité de nommer de façon juste des réalités existantes, ou alors, comme vous le dites, des réalités nouvelles, quelque chose qui est une véritable liberté et parfois un véritable courage.
Voilà, le langage, Pascal Chabot, en a fait un drame philosophique. Chez vous, Laurent Nunez, le ton est plutôt à la réjouissance, voire à la résistance. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le langage est entré dans une zone de turbulence aujourd'hui?
Oui, en fait, j'ai eu le sentiment il y a quelques années que le langage, c'était là que se jouait une sorte de drame. Et mes premiers livres, mes trois premiers livres, Les écrivains contre l'écriture, Si je m'écorchais vif, même Les récidivistes, c'était vraiment sur une crise du langage. Mais en fait, quand on regarde bien, parce que qu'est-ce qu'on reproche au langage habituellement? C'est la critique normale, ou c'est la critique de Hegel. Le langage, c'est comme un vêtement. Mais c'est uniforme et il ne peut pas aller à tout le monde. Donc du coup, c'est le problème de, on dit la maison, j'entends quelque chose, mais vous n'entendez pas la même chose que cette maison. C'est le problème de ce que les linguistes appellent la dénotation et la connotation. C'est tout le problème du langage. On s'exprime, mais en fait, il est fort possible que ce que moi j'essaye de dire, vous entendez ce que vous croyez comprendre. C'est le principe reproche qu'on fait au langage, mais en fait, je m'en suis... Et j'essaie de montrer ça à travers mes derniers livres, notamment celui-là. J'essaie de montrer qu'en fait, c'est peut-être une force. C'est ce qui permet la littérature. Ce qui permet la littérature, c'est que quand je dis « la porte s'ouvre » et on voit le jardin, chacun voit un jardin différent. Il y a l'imagination, ce qui est impossible au cinéma, par exemple. Au cinéma, l'image est imposée. Grâce à aux mots qui sont suffisamment vagues, la littérature prend le défaut des mots et en fait une énorme qualité.
Mais c'est l'anti-Babel, alors, si on considère le langage comme une maison avec des murs frontières, des murs clos, c'est ça?
L'énigme de Babel, elle est assez étrange, parce que c'est une punition divine pour que les hommes ne puissent pas monter, rejoindre Dieu. Moi, c'est vrai que c'est assez inquiétant, c'est ce que dit le mythe, généralement. Je pense que, même, c'est vrai, au sein de la langue, au sein de même une seule langue, chacun est dans son Babel.
Vous écrivez aussi, Laurent Nunez, que si vous vous nourrissez des mots, des mêmes mots que tout le monde, vous vivrez la même vie que tout le monde. Donc, à vous lire ou à vous croire, si on veut une vie nouvelle, il faut s'inventer nos propres mots, quitte à ne pas être compris de son prochain.
Oui, c'est, vous savez, on a presque tous d'accord sur l'idée de, que plus on a de vocabulaire, et plus notre vie est riche. Sera riche. Ça, je crois que personne peut nier cet axiome, en tout cas. Dans ce cas, d'accord, mais que se passe-t-il la langue française est une langue très riche, mais il y a quand même des choses dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, des mots qui n'existent pas en français. Donc du coup, nous-mêmes, on est privés, parce qu'on ne connaît qu'une seule langue, on est privés de certaines voies, de certaines possibilités d'action, de chemin de vie, puisqu'on n'a pas ces mots-là. Vous savez, est-ce que les gens boycottaient plus ou moins avant que le mot boycott existe en français ? Bah, visiblement, ils boycottaient moins parce que, comme le mot est le résumé de l'action, il n'avait même pas ce résumé-là de possible. On pouvait boycotter, mais on savait pas. Maintenant, il suffit d'être en réunion et de dire on va boycotter pour que tout d'un coup, voilà, le mot entraîne l'action. Bah, j'ai essayé d'introduire 13 mots d'un choix d'un pays ou d'une civilisation différente, pour tout d'un coup que les gens aient enfin dans leur tête cette possibilité de faire des choses qui n'existaient pas dans le langage et donc qui ne pouvaient pas exister dans leur vie.
Qui ne pouvaient pas exister dans leur vie comme, alors on peut prendre par exemple différents, vous avez décliné différents mots qui renvoient tous à des champs de nos vies assez particuliers. Est-ce que vous voulez commencer par l'espagnol? Mais moi j'ai un peu peur de les accrocher à chaque fois vos mots. Comment je vais faire? Vous avez la prononciation qui va avec? Si on prend le petit vuelta.
Ouais, c'est écran phonétique
oui,
à chaque fois en bas.
Mais n'ayant pas étudié, j'ai quand même peur de me tromper.
Ah, vous prenez le mot
le plus facile à prononcer pour bien ouvrir.
Le plus cocasse peut-être. Puti Vuelta, moi je suis, vous savez, Nunez, j'ai du mal à cacher mes racines espagnoles avec ce mot. C'est un mot que j'ai entendu, que les amis ont prononcé à Madrid en soirée. Et Puti Vuelta, c'est très étrange. C'est un mot qui veut dire à peu près.
Alors, il y a Puti,
voilà,
qui renvoie à Puta.
Voilà, qui veut dire Puta, qui est donc relatif aux prostituées. Et puis la Vuelta, c'est le tour qu'on peut faire de surveillance ou quoi. Et la Puti Vuelta, c'est un mot qui n'existait pas. C'est incroyable, qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est beau aussi de voir comment un mot, d'un coup, se lève de rien. Et se crée et propulsé sur le devant de la scène. La Puti Vuelta, c'est le tour qu'on fait dans une fête ou dans une discothèque ou dans une soirée on fait croire qu'on va voir l'ambiance qu'il y a dans cette fête et en fait on regarde s'il y a des personnes qu'on va pouvoir séduire. Donc c'est assez étrange parce qu'on cache quelque chose. On fait croire qu'on est là pour simplement voir si l'ambiance va rester et en fait on regarde les gens. C'est un mot qui est en même temps très vulgaire, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai dit on va chercher qui a inventé ce mot. Et du coup, je me suis retrouvé en Amérique latine, parce qu'en fait, c'est vraiment les prostituées qui l'ont inventé, et j'ai vu qu'il y avait un décollage comme ça grâce à la télé-réalité, une émission de télé qui avait propulsé ce mot. D'ailleurs, si vous tapez sur Internet le mot Puti Vuelta, il y a un clip avec plus de 3 millions de vues avec deux candidats de télé-réalité qui ont fait, et dorénavant, ce mot existe partout. C'est-à-dire, il y a des t-shirts, il y a des magnets, il y a vraiment des fonds d'écran. Un mot qui n'existe pas il y a 10 ans, tout d'un coup, cartonne. Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça ne l'est pas? Moi, ça me passionne.
Mmh. Pascal Chabot, savez-vous ce que c'est que l'agression du mignon?
Oui, mais il y en a un que j'ai
celui c'est que j'ai pas, vraiment... C'est pas votre préféré.
Non, celui que j'ai vraiment préféré, et je trouve que on est vraiment à la fois dans la littérature et dans la philosophie, c'est le kintsugi, le mot japonais qui signifie honorer d'avoir été cassé. Je trouve que la manière dont vous racontez la façon dont un shogun a cassé un bol et voulant le réparer, il a ordonné que la réparation de ce bol soit plus beau encore que son état premier, si oui. Je vous ai bien lu. Bah. Et il y a là, vous parlez du concept de résilience et en disant la différence entre ce kintsugi et la résilience, et c'est vrai, c'est fondamental, et on voit finalement que les mots sont quelque chose comme des rayons X qui permettent de voir différemment la réalité, qui permettent de voir à l'intérieur de la réalité.
Je trouve que vous voyez là sur le kintsugi, en effet, qui est un mot japonais, c'est incroyable. Vous avez vu, nous il y a en 15 ans, il y a eu le mot résilience qui a envahi les médias et les esprits. Voilà, grâce à Boris Cyrulnik, peut-être, mais en tout cas, qui a imposé aux gens l'idée de se rétablir d'une souffrance, de faire comme si c'était rien passé. Le Kitsungi, tout d'un coup, qui est l'art de réparer quelque chose en montrant qu'il a été cassé.
En laissant la cicatrice visible.
Voilà, en laissant la cicatrice visible. Et avec, d'ailleurs, on recolle donc les morceaux avec des jointures en or. Ce qui fait que l'objet cassé coûte plus cher que l'objet neuf. Ben voilà, philosophiquement, c'est très important. Ça veut dire aux gens, vous avez le droit de montrer que vous avez des cicatrices, que vous avez été blessé. L'idée de montrer qu'on est impeccable et que tout va bien, c'est un leurre. C'est un leurre des sociétés modernes. Retournons dans une époque où on a le droit d'être humain.
Voilà, et où on ne remet pas, si on reprend l'exemple du bol que vous évoquiez, Pascal Chabot, et que vous décrivez, Laurent Nunez, dans ce livre, on ne remet pas le bol à son état originel. On ne se dit pas que les objets neufs sont impurs à partir du moment où ils ont des traces d'une autre vie. On se rappelle aussi, pour nous, comme pour ces objets, qu'il peut y avoir dans chacun ou dans chaque histoire un passé qui peut mériter d'exister encore aujourd'hui. Mais alors, le fait de ne pas avoir le mot en français, par exemple, pour exprimer cette idée-là, qu'est-ce qui manque ? Il est où le silence ?
Et du coup, quand un mot n'existe pas, c'est un autre mot qui le remplace. Et là, vraiment, c'était vraiment la dictature de la résilience. La résilience, j'avais l'impression, avait gonflé, avait pris toute la place. Déjà, Claudel se moquait de cette résilience à son époque, en montrant à quel point c'est impossible de vouloir, comme ça, être dans un état élastique, on revient à l'état originel. Vous savez, moi, tous ces gens qui veulent revenir à un état originel, que ce soit dans une histoire personnelle ou de civilisation et tout, c'est impossible. On ne recule pas, on ne revient pas en arrière.
Pascal Chabot.
J'ai un petit peu travaillé sur un autre exemple, qui est l'exemple du burn-out. Naguère, il y a encore 15 ans, 20 ans, c'était le terme dépression qui était utilisé et qui était le seul disponible, qui lui connotait un registre beaucoup plus personnel au niveau de la souffrance. L'usage, après l'invention de ce terme de burn-out, dénote une toute autre réalité qui n'est absolument pas comparable à celle de dépression. Et là, c'est bien un exemple d'un terme qui remplit une fonction, qui est une fonction qu'aucun autre terme ne peut remplir.
Pascal Chabot, vous avez travaillé autour de ce terme aussi à travers un documentaire que vous avez donc réalisé avec Jérôme Lemaire. Mais cette idée du burn-out, vous savez d'ailleurs à ce mot qui est entré lui aussi de manière très énergique dans nos vocabulaires à tous, ce qui lui a été reproché, c'est que c'est quand même aussi un mot anglais, un anglicisme qui s'est imposé. Est-ce que là se pose pas la question de savoir s'il ne faudrait pas inventer nos propres mots pour décrire ces situations-là? Vous dites que la dépression ne suffit pas à raconter l'ensemble de ce que le burn-out signifie bien pour vous aujourd'hui. La peur aujourd'hui, pour beaucoup, ce sont de voir nos langues s'effacer face à des langues dominantes comme l'anglais.
Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est que les langues ont toujours vécu d'hybridation, ont toujours vécu d'importation, et c'est une excellente chose. La vie des langues est finalement la vie des relations que des cultures peuvent nouer entre elles. Et j'ajouterais qu'en tant que bruxellois, c'est un phénomène que nous vivons et qui est sans problème. Cela étant, l'autre dimension est une dimension plus institutionnelle, moins démocratique. Et là, il est tout à fait clair qu'il y a quelque chose comme une sorte de tyrannie intellectuelle de l'anglais, je me permets de le dire, où on voit des colloques dans des pays francophones ou en Italie ou en Espagne qui sont tenus en anglais, alors que 95% des gens qui y participent sont francophones, comme si la science en était c'est de parler dans une langue différente que celle du français. Le problème là est un problème institutionnel. C'est certain qu'il y a une démocratie de la langue, un génie de la langue qui est celui des usagers. Parfois, quand on parle en philosophie, en tout cas dans une langue qui n'est pas la sienne, on a l'impression d'être un peintre qui utilise pinceau un peu trop gros, voire qui est obligé de peindre avec des moufles. En tout cas, c'est une impression que je peux avoir. Et le génie de la langue est d'abord lié à la pensée dans laquelle cette philosophie, par exemple, est née. Passer d'une pensée qui est forgée en français à une expression en anglais et tout, n'est pas toujours le plus aisé, bien sûr.
La langue et politique, Barbara Cassin nous le rappelle régulièrement, nouvellement élue sous la coupole, la philosophe et auteure d'Un éloge de la traduction nous en parle.
C'est véritablement une urgence politique à mes yeux. Je crois que le plus urgent, ça n'est pas tellement de lutter contre le globish qui de toute façon existe et on a besoin d'une lingua franca, d'une langue mondiale si vous voulez, pour les échanges. Mais c'est de faire comprendre qu'une langue c'est aussi autre chose qu'un moyen de communiquer, que c'est aussi quelque chose de l'ordre d'une vision du monde. Et j'entendais votre bonjour, vos bonjours multiples. Et ben, en effet, chaque langue a sa manière d'ouvrir le monde. Et si on dit bonjour, on ne dit pas tout à fait shalom ou salam, c'est-à-dire la paix soit avec toi. On ne dit pas kairé comme les anciens grecs, c'est-à-dire jouis, réjouis-toi. Donc c'est cela que j'essaye de faire passer. Et la politique là-dedans, c'est que la traduction, c'est sans doute un très bon modèle de citoyenneté, c'est-à-dire un savoir-faire avec les différences.
Voilà, et traduire ces 13 mots que vous évoquez, Laurent Nunez, dans cet ouvrage, c'est justement bien compliqué en fait. Il faut presque les adopter dans la langue dans laquelle ils ont été formulés. Sortir le langage d'un usage communicationnel, le faire réfléchir, c'est aussi à ça que servent les hybridations, les mélanges.
Oui, c'est-à-dire qu'en effet, moi je voulais pas, dans mon livre, qu'on applaudisse l'exotisme d'un mot, c'est-à-dire qu'on se dise oh comme ils sont originaux ces gens à l'autre bout du monde qui ont d'autres mots que nous. C'est, moi ça m'intéresse pas parce qu'il y a toujours là un rapport assez paternel ou très hiérarchique sur ça où on se dit tiens ils ont des mots mais c'est ceux qui se réjouissent que les Inuits ont 30 mots pour la neige. Je vois pas l'intérêt. Moi je voulais qu'on l'adopte et pour ça j'ai mélangé le mot à toute la culture française. Il y a beaucoup de citations de romanciers, de philosophes européens d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment qu'on intègre ce mot, si c'est possible, à notre culture, qu'on puisse non plus le considérer comme autre, mais le considérer comme un autre qui vient vers nous, qu'on puisse réutiliser dans la vie de tous les jours. C'est mon grand rêve. Si on pouvait utiliser ces mots-là dans la vie de tous les jours, je pense qu'on verrait des situations se débloquer.
Alors si on se retrouvait à utiliser dans la vie de tous les jours ce terme de guiguil, et j'y reviens, même si Pascal Chabot n'a pas accroché dessus, il y aurait peut-être quelque chose d'inquiétant. Le guiguil, qu'est-ce que c'est? C'est cette tension qui surgit en nous, devant quelque chose d'insupportablement mignon, si forte qu'il nous faut l'évacuer immédiatement en touchant la source de cette tension, en la mordillant, en la pinçant. Alors, oui. L'exemple même, c'est quand on voit une photo de petit chaton ou d'un petit bébé adorable. Il y a cet élan qui nous porte vers lui, photo ou pas photo d'ailleurs, et nous donne envie d'aller le croquer.
Ouais, le guiguil, qui est un mot philippin, ça explique le succès des chatons sur Internet. Ça explique, vous savez, le nombre de mères qui disent à leur enfant « j'ai envie de le croquer ». Ça explique des souris et des hommes. Ça explique le désir. Je veux dire, ça explique même pourquoi peut-être les athlètes mordent leur médaille quand ils en ont. L'esprit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mot très ancien qui d'un sentiment qui a été analysé en 2013. Par les scientifiques. Les scientifiques français, on appelle ça l'agression du mignon. Vous savez, le mignon, c'est étrange, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le beau, le laid, mais le mignon, très peu, et d'ailleurs, je montre que c'est d'ailleurs un biologiste anciennement nazi qui a travaillé dessus, je le marque dans les notes, qui a travaillé dessus sur qu'est-ce que le mignon complètement. Il s'appelle Konrad Lorenz, voilà, qui est le prix Nobel de physiologie en 73. Qu'est-ce qui est mignon? C'est quelque chose qui est au bord de l'immaturé. C'est quelque chose qu'on sent qu'il va falloir le protéger. Quelque chose d'incomplet. Un chaton, un bébé. Et là, le cerveau éprouve quelque chose d'incroyable qui est donc analysé par les scientifiques. Il est surexposé à des sentiments positifs. Et ça fonctionne comme dans les sentiments négatifs. La surexposition fait qu'il doit bloquer ça. C'est-à-dire que même quand on éprouve du bonheur par excès, le cerveau refuse cet excès et on a envie que cet excès s'arrête. Alors on mord le bébé, on a envie de serrer le chaton. Vous savez, c'est ce personnage dans Les Souris et des Hommes qui aime tellement les animaux qu'il les serre. parce qu'il est un peu bon enfant, un peu naïf, il essaie tellement qu'à la fin il meurt, il les adore. Quand on aime, c'est assez, peut-être un peu étrange comme les gens, mais quand on aime quelque chose d'insupportablement, qui est insupportablement mignon pour nous, on a envie que cesse cette mignosité.
Pascal Chabot.
En vous lisant, on peut aussi se faire la réflexion qu'écrire, c'est circuler avec une panoplie de mots autour de mots absents pour nommer des réalités dont on connaît l'existence mais qui ne sont pas nommables en français, tout au moins vous le montrez bien, par un seul mot, mais les autres mots dans leur multiplicité, en un certain ordre assemblé, peuvent alors converger pour faire voir ce qui n'est pas directement traduisible. Finalement, la littérature se déploie peut-être dans une certaine absence. Elle n'est pas juste profession d'un terme ou d'un mot, mais elle est grâce au style, grâce au rythme, l'émergence d'une façon de nommer singulière.
Et ça, c'est un peu le plaidoyer d'ailleurs que fait dans votre dialogue Pascal Chabot, Diana, face à son interlocuteur, Cratil. Diana, elle plaide pour une ouverture du langage, loin des idiomes cosmopolites. Elle estime qu'il nous faut une langue qui n'entretienne, au fond, aucune réalité concrète. On a tendance à se dire que c'est la fonction du poète d'aller trouver ces mots-là aujourd'hui, hein.
Oui, son combat est un combat pour l'élargissement de la distance entre le langage et le réel, pour ne pas que les mots collent aux choses comme des limaces collent à la terre. Finalement, la liberté humaine est une liberté qui s'exprime dans les possibilités différentes de nommer, tout en gardant évidemment une possibilité d'être compris. Alors que l'autre personnage, en l'occurrence beaucoup moins poétique, est un personnage qui se dit que se noue aujourd'hui une collusion de plus en plus forte entre les mots et les choses, et que finalement la culture des Google, la culture des Amazon, toute cette normalisation du langage qui est jointe à une mentalité qui est une mentalité de plus en plus liée à la consommation et à la commande, traite le langage simplement comme un ordre qui devrait être exécuté.
Voilà, pour vous aussi, je l'évoquais en ouverture, le langage serait l'image du monde, en tout cas pour ce personnage, Cratil, dans votre drame, qui défend ce parallèle strict entre le réel et le langage. Et le réel, aujourd'hui, bien, c'est la technologie, c'est le numérique qui a envahi nos vies. Alors comment la technique façonne-t-elle nos idées, nos mots? Comment il s'explique ça, votre personnage, Cratil? Peut-être donner l'exemple de l'amitié aussi que vous développez avec les algorithmes et les réseaux sociaux. On peut peut-être essayer de raconter comment la technologie a infiltré notre langage et l'a normalisé.
La technologie a très certainement infiltré notre langage. On est au début de cette recherche-là. Toutefois, la philosophie des techniques devient de plus en plus une philosophie politique. Elle cherche de plus en plus à savoir quel type d'impact ces technologies ont sur nos modes d'existence et sur les modes d'existence sociaux. Ce n'est peut-être pas un hasard que la société mère de Google s'appelle Alphabet. Ce n'est peut-être pas un hasard que dans Amazon, on est une flèche qui va du A au Z, c'est-à-dire tout vendre finalement de A au Z, de A à Z, car pour tout vendre, il faut pouvoir nommer tout ce qui est vendable. Ce n'est pas une critique en soi de cette technologie que j'essaye de mener, mais c'est une critique de la financiarisation qui est liée à la technologie également et qui pourrait gagner de plus en plus la langue elle-même. Google est tout de même la première capitalisation boursière de la planète et elle l'est devenue par rapport à son algorithme qui associe un terme, par exemple hôtel au centre de Paris, une chose, tel ou tel hôtel. C'est finalement l'association du mot et de la chose qui qui est la possibilité pour ces plateformes-là de fournir un service et le fournissant de s'enrichir. C'est comme si ces algorithmes étaient une sorte de certification du bon devenir, chose du mot. Et le personnage, qui est un philosophe qui a pour ainsi dire mal tourné, qui est un philosophe qui est amoureux passionné plutôt, du premier Wittgenstein, c'est-à-dire celui pour qui la Bild théorie exprimait une correspondance stricte entre le langage et les mots, ce que Wittgenstein, dans une seconde phase, a heureusement réfuté, mais pour le personnage, le premier Wittgenstein reçoit sa vérité et sa traduction dans les grandes plateformes numériques qui, elles aussi, essayent d'associer assez justement mots et choses.
Voilà, Laurent Nunez, ce que Google fait à la langue, le langage réduit à une série d'ordres auxquels tout obéit, vous en avez aussi cette perception?
J'ai lu ce week-end le drame de Pascal Chabot et j'étais très interloqué, si on peut dire, parce que moi-même, je suis hélas une sorte de victime, puisque j'ai une enceinte connectée qui m'obéit à la parole.
À la voix. À la voix.
Voilà. Et en effet, c'est très étrange quand on lit son livre, parce qu'il a raison, et j'ai l'impression que tout d'un coup, il reconfigure mon rapport avec cette enceinte. C'est très étrange d'avoir une sorte d'enceinte connectée, vous dites quelque chose, et vous payez un abonnement pour qu'on vous écoute, c'est-à-dire pour que ce que vous avez dit se produit. Et du coup, en effet, tant que je ne dis pas son mot, elle s'appelle Alexa, et tant que je ne dis pas son mot, je peux parler et personne ne m'entend, et personne ne m'obéit. Mais il suffit que je donne son nom et que je dise quelque chose, éteins la lumière du salon, appelle un taxi, fais-moi écouter une chanson pour qu'enfin ma parole devienne performative. Et là, c'est extrêmement intéressant. Et parce que du coup, en effet, on se demande jusqu'où va aller cette privatisation du langage. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que bien avant Google ou bien avant ça, il y a déjà des gens qui ont essayé de privatiser le langage ou les locutions. Par exemple, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu un grand procès parce que, vous savez, le Petit Prince et Dessine-moi un mouton, on est d'accord que Dessine-moi un mouton, c'est une citation. On ne pourrait pas la reprendre. Mais il y a des procès pour juste le Dessine-moi. Les héritiers de Saint-Exupéry ont gagné ces procès. Vous ne pouvez pas nommer quelque chose, dessine-moi, plus autre chose. Dessine-moi un t-shirt, c'est interdit. C'est interdit parce que le dessine-moi fait déjà partie d'une sorte de locution approuvée, copyrightée, j'allais dire, par les héritiers de Saint-Exupéry.
En tout cas, pour en faire un usage commercial.
Pour en faire un usage commercial. Pour un titre ou quoi, c'est impossible, ça rappellerait trop. Donc, ils ont privatisé un verbe avec un pronom. C'est déjà incroyable. Ce mot-là, déjà, on ne peut plus le dire pour un usage commercial à moins de payer pour pouvoir le dire.
Là, je trouve qu'on devrait privatiser aussi le « Je me souviens » de Pérec, comme ça on l'utiliserait un peu moins.
Oui, mais je pense souvent que les héritiers de Pérec sont moins embêtants que ceux de Syntex.
Votre personnage, crée-t-il Pascal Chabot, en vient à vouloir breveter le langage, et on y est, c'est-à-dire à le racheter pour mieux le vendre, comme d'autres brevettent les couleurs, comme le noir, l'ultra-noir d'Anish Kapoor. C'est cela la notion de progrès, dit-il, de devenir banal de l'impensable. On a racheté l'eau, la matière, le feu, la terre, le temps, l'attention, le désir, on a tout acheté. Le langage est le prochain produit de loin le plus rentable.
Ce qui est exprimé dans cette dystopie, c'est effectivement le fait que nous ne pouvons pas anticiper, et loin de là, tout ce qui risque d'advenir. La voix est clairement le nouveau média. Elle l'a été pour le plus grand plaisir de tous les gens qui font et qui écoutent de la radio.
N'en parlez pas au passé, s'il vous plaît.
Non, voilà. Non, bien sûr. Elle l'a été, mais elle n'a été que ce plaisir-là. De plus en plus, la voix est un média qui est commercialisé, qui est commercialisable. C'est devenir possible. Alors, c'est finalement la contrepartie subjective ou anthropologique de la robotisation. Si les robots sont des machines qui obéissent à des ordres, cela veut dire tout de même que l'humain deviendra de plus en plus un donneur d'ordres, et il le fera par sa voix. Alors, c'est là un nouveau modèle du langage, c'est là un modèle extrêmement simpliste, extrêmement pauvre du langage, mais extrêmement utile aussi. Et il y a toute la perplexité qui est celle de notre rapport à la technologie, finalement, la perplexité entre nous qui sommes parfois des utilisateurs extrêmement heureux que nos ordres être brièvement formulé se voit couronné de la meilleure réussite et des effets que nous attendons, et d'un autre côté, et c'est à ça que j'ai essayé de prêter attention, cela suppose tout de même que finalement cette technologie devient une technologie de fracture entre ceux qui auraient les moyens de se payer un abonnement à la logosphère et ceux qui, pour le dire ainsi, et ceux qui n'ont pas les moyens. En réalité, on a l'impression que le combat entre technophiles et technophobes qui a marqué tout le XXe siècle n'est plus pertinent aujourd'hui puisque les techniques sont partout, mais qu'une autre ligne de fracture vient doit être créée entre technologie du commun et technologie finalement qui isole certains actes possibles parce que seuls ceux qui peuvent payer auraient accès à ces choses-là.
Alors comment échanger plutôt qu'obéir? C'est l'enjeu de vos réflexions à tous les deux, Pascal Chabot et Laurent Nunez. Faut-il resacraliser le langage? Et en attendant, comment faire aussi pour que la langue ne s'impose pas toujours d'en haut? Le français, il y a une institution qui veille sur lui, c'est l'Académie. Comment se révise un dictionnaire? Quel mot mérite d'y entrer ou d'en sortir? Je vous propose d'écouter l'académicienne Danielle Salnave.
Beaucoup de gens pensent que l'Académie a une vision très étroite de la langue, que c'est uniquement des mots du beau langage, etc. Non, c'est aussi les mots de tous les jours. Il faut qu'ils y soient.
On retrouve peut-être le gosier dans siffler une bouteille, peut-être l'avaler dans le gosier, non?
Est-ce que siffler une bouteille... Alors, quand un mot d'argot vient d'apparaître, on va pas le bête peut-être, lol par exemple, qui n'est pas de l'argot, mais c'est une façon. Bon, on n'est pas à la lettre L, mais si on était à la lettre L, on hésiterait peut-être, on attend un peu, c'est vrai. On ne prend pas des mots qui risquent de disparaître peut-être très vite, c'est ça le problème, mais bon. On ne peut jamais savoir combien de temps un mot va durer.
On peut parier que dans 5 ans, ça tombera du petit Robert. Exactement. Parce qu'ils auront besoin d'introduire d'autres mots. Oui. Et c'est parce que c'est classique.
On tient beaucoup compte, c'est ça le rôle de l'Académie, c'est de tenir compte de l'usage. Quand des mots apparaissent, s'ils ont une fonction, surtout s'ils aident à éviter qu'on passe immédiatement un mot anglais. Si on a un bon mot français, autant le mettre.
Voilà, c'est l'usage aussi qui fait le mot. Laurent Nunez, vous êtes pour faire entrer dans le dictionnaire l'ensemble des mots, les 13 mots nouveaux que vous évoquez, dont il nous faudrait des mots nouveaux.
Oui, parce que vous savez, c'est toujours la même question. C'est qui dirige le langage? Les linguistes et les grammairiens sont pas d'accord. Les grammairiens sont normatifs, ils pensent que c'est le gréviste, c'est-à-dire le bon usage qui le fait. Les linguistes sont descriptifs, ils pensent que c'est l'usage qui est la norme. Moi, je ferai rentrer dans un dictionnaire ce qui est rentré dans le langage, dans la rue, c'est ce que les gens font qui est la norme. Et ça, c'est toujours compliqué à accepter. Mais l'Académie française le fait assez bien. Elle a un travail très important qui est de gestion d'une langue qui vit. Elle le fait elle a du temps pour le faire. Elle prend son temps parfois. Mais vous savez, il y a une petite astuce. Moi, j'ai visité l'Académie. J'ai une petite visite personnelle il y a quelques années. Et ils ont une salle où ils choisissent. Où ils délibèrent. Il y a une salle assez spéciale avec un très beau tableau d'un homme accouché qui est presque mourant. Et la moitié du tableau est cachée par un panneau en bois. Et quand ils sont trop en retard, ils ouvrent ce panneau et l'homme est complètement mort. Voilà, ça leur rappelle que le temps presse, qu'il faut aller à la même vitesse que le langage qui n'a pas le temps de trop de tergiversation. L'Académie française, c'est quand même un trésor. Le dictionnaire est incroyable et beaucoup plus moderne que ce qu'on croit.
Est-ce qu'il faut du coup simplifier parfois le langage ou est-ce qu'il faut le charger de symboles? On a beaucoup discuté de l'écriture inclusive au début de cette année, de la possibilité de créer un langage qui soit non discriminant, mais qui là encore aurait été formalisé. Pascal Chabot, chez vous en Belgique aujourd'hui se discute une simplification éventuellement de l'orthographe par respect du citoyen. Ça a été le plaidoyer du linguiste belge qui préside ce conseil de la langue française et de la politique linguistique. Faciliter l'accord du participant passé. Est-ce que vous dites qu'il faut formaliser à un moment, mettre dans le marbre toutes ces modifications pour rendre la langue plus simple ou au contraire il faut lui laisser toute sa richesse?
J'aurais tendance à dire qu'il faut lui laisser toute sa richesse tout en peut-être donnant la possibilité de certaines simplifications, mais alors en admettant bien que ces simplifications ne doivent pas être les seules formulations possibles. Il ne faut pas passer finalement d'une norme coercitive à une autre norme qui aurait sa coercition à elle aussi. Donc le langage est tout de même également un lieu de liberté et il est un lieu assez exceptionnel par certains raffinements, par certaines bizarreries. Mais à partir du moment, c'est certain, où ces bizarreries là, ces raffinements sont des méthodes finalement de sélectionner les élèves par exemple ou les étudiants, c'est peut-être dangereux.
Je vous dis merci, c'est simple, c'est court, c'est efficace, ça se comprend de tous. Laurent Nunez, il vous faudrait des mots nouveaux aux éditions du Cerf. Pascal Chabot, l'homme qui voulait acheter le langage, votre drame philosophique vient de paraître au PUF. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Mayan Escovic et j'oublie quelqu'un, ça y est, aidez-moi, non, personne ne va m'aider. Bon, bah alors voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup, c'est Marie Placet qui a réalisé l'émission avec Clément Daté, si c'était Laura Dutech, voilà, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. France Culture, il est 13h30.